Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite de votre quotidienne. Les informés avec Adil Farkan, 19h, 20h chaque soir et votre quotidienne sport justement avec toute l'équipe de Time Sport. Le match déclic au menu de l'émission de ce soir du Paris Saint-Germain hier dans son antre qu'est le Parc des Princes. En ce mercredi 8 décembre, on va revenir aussi sur Griezmann qui délivre l'Atlético et le Milan bon dernier éliminé de cette fameuse Champions League. La Coupe arabe Maroc-Algérie en quart de finale, ça promet. Donc, nous accueillerons pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM dans notre émission. Bien sûr, je veux parler de Latifa Wilkouir, justement directrice de la rédaction chez nos confrères du Bondy Blog. Voilà, ça sera un plaisir de parler avec elle des fameux paris sportifs. Et oui, parce qu'on a vu de choses sur les réseaux sociaux, notamment avec les jeunes et moins jeunes, concernant ces fameux paris sportifs. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir sur l'antenne de Beurre FM. Allez, c'est parti avec le JT Sport et Jason. Go Go Time Sport.
Time Time Sport.
Et oui, on démarre les infos du mercredi par le LOSC qui se déplace ce soir à Wolfsburg pour une qualification en 8e de finale de Champions League et Jocelyn Gourvennec qui sera privé de Jonathan Bamba et Sheka, tous les deux suspendus, ainsi que Timothy Weah, blessé. Panique pour le match Tottenham-Rennes en Conference League jeudi soir. Le club anglais annonce avoir au moins 8 cas positifs au Covid-19 dans son effectif et aurait demandé un report de la rencontre face au club breton. L'UEFA a encore quelques heures pour accepter ou non la demande des Spurs. En tennis, Novak Djokovic pourrait finalement accepter de participer à l'Open d'Australie le mois prochain. Si rien n'est encore officiel, le Serbe fait bel et bien partie de la liste des joueurs engagés dans la compétition parue il y a quelques heures. Et on termine avec du rugby en félicitant Antoine Dupont, le seul Français à figurer parmi les joueurs de la Dream Team 2021, révélé ce mercredi par World Rugby. Le demi de mêlée des Bleus est également en course pour le titre de meilleur joueur de l'année qui sera décerné vendredi soir. C'est tout pour ce soir. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport.
Voilà, avec moi ce soir pour m'accompagner, on aura notre consultante Yasmine. Comment ça va Yasmine?
Ça va super. Un jour de plus où Zizou n'a pas signé au PSG, donc tout va bien.
Ah, bon, bah, oui, supplage comme ça, c'est pas bon.
Oui.
On verra. En tout cas, il est bien sur Paris, Zidane.
Ouais. Réunion des champions 98, champions 98. Donc peut-être pour une signature, mais bon, pas pour aujourd'hui.
Et Paris, Nasser Al-Khaifi est convié justement. Ouais. À ces retrouvailles avec les anciens.
Non, j'y pense pas. Je pense qu'ils font ça régulièrement, au moins une fois par an déjà.
Ouais. En tout cas, il est bien sur Paris. Venir, ouais. C'est sûr. Louis-Marie est avec nous. Comment ça va, Louis-Marie?
Ça va très bien. Moi, je ne me réjouirai pas ou je ne serai pas mécontent d'une signature de Zidane au PSG. Donc,
ouais.
Je suis moins inquiète que Yasmine sur ce plan-là.
Bah, peut-être Mourad qui est de la partie ce soir. Bonsoir, Mourad.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Moi je dirais un jour de plus pour Pochettino à la tête du PSG. Non, je plaisante. J'ai rien contre Pochettino, mais concernant France 98 et Zidane, bah, tous les ans c'est les alumni de France 98. Donc on a l'habitude de les voir sur les réseaux sociaux, faire le tour des restaurants, se retrouver entre bons et moins bons. Parce qu'il n'y avait que Zidane, hein, Djorkaeff et Thuram comme tête de gondole. Le reste était que des joueurs de seconde zone. Mais ils étaient tous en avant sur la photo. Charbonnier, Franck Leboeuf. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Hein.
Moi j'ai très bien analysé les photos sur les réseaux.
Mais ouais. Elle est belle.
C'est toujours comme ça.
Allez, le sujet, le premier de cette émission, on y va.
Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. 4 buts à 1, c'est le Paris Saint-Germain face à leurs voisins. Eh oui, les Belges, le FC Bruges, un doublé de Kylian Mbappé, le gamin de Bondy, justement, et sans oublier Léo Messi, la star mondiale, un doublé à la 38e, à la 76e sur pénalty. Mourad, on l'écoute. Ce Paris Saint-Germain qui fait tant rêver, ce Paris Saint-Germain aussi. Qui est un peu décrié depuis hier soir. Le PSG a-t-il retrouvé peut-être le sommet de l'Europe?
Je pense que c'est un peu prématuré de le dire.
Ouais. On est chauvin.
Tu parlais de retrouver les sommets, tu parlais de déclic, c'était un match sans enjeu. Pour moi, bon après j'ai pas envie d'être carnivore sur le débat, pour moi le fait marquant de ce match-là, ben, c'est justement l'indispensabilité de Kylian Mbappé. Je suis pas très fan des statistiques, mais il est 51 fois décisif en 51 matchs de Ligue des Champions. C'est le plus jeune joueur à avoir dépassé la barre des 30 buts en CL, donc c'est totalement monstrueux. Après, on a l'impression que ce match-là, peut-être que c'était pas si décisif que ça, mais ça a permis de créer des automatismes, notamment avec Lionel Messi, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. notamment quand il lui laisse le penalty. Donc voilà, c'est des matchs, c'est bon pour la pratique, pour créer des automatismes, et c'est ce que j'ai apprécié sur ce match. Ensuite, on est très exigeant vis-à-vis du Paris Saint-Germain, parce que voilà, il y a tellement de moyens, il y a un effectif pléthorique avec beaucoup de stars, avec des joueurs qu'on apprécie. Donc on veut voir ce football champagne, on veut voir, on est charmé par cet effectif, donc c'est normal qu'on soit exigeant.
Ouais, Yasmine. Ce Paris Saint-Germain.
Comme nous dit Mourad, c'était un match sans enjeu finalement. Le PSG finit deuxième de la poule. J'irai attendant de voir déjà contre qui le PSG va tomber, Liverpool, le Bayern, le Real. On va dire que peut-être que le meilleur tirage pour eux, ce serait Manchester United.
Oui, il y a l'Ajax.
Ou l'Ajax, effectivement.
Mais ils tomberont pas dessus, ils tomberont sur un Espagnol, comme d'habitude, vu les statistiques.
Je pense pas forcément qu'il y ait eu un déclic au PSG. Moi, je parlerais plutôt d'un déclic de Messi. Je trouve qu'il a été, il est de mieux en mieux en Ligue des Champions, en tout cas par rapport en championnat. On voit que là, il fait des passes, il marque. Je le sens mieux qu'il y a 2-3 semaines.
Ouais.
Après, au niveau du jeu du PSG, je trouve qu'il y a quand même une meilleure connexion, une meilleure fluidité. Pochettino a aligné quand même son 11 type, mis à part Neymar qui était blessé. Verratti était de retour. Donc c'est de bon augure pour la suite et ça sera à voir. Mais j'attends de voir le PSG contre de plus grosses équipes en huitième de finale.
Ouais, il y a eu quand même la Citizen.
Bah, alors moi, je
Guardiola, Louis-Marie.
Moi honnêtement, parler de déclic sur ce match-là, moi ça sera un grand non parce que pour plusieurs raisons déjà.
Alors.
La première chose, c'est le scénario du match. Quand tu marques deux buts en 7 minutes, que tu marques sur tes deux premières occasions, forcément. Le match est beaucoup plus facile et c'est bien évidemment plus simple pour les joueurs. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour les joueurs de se détendre, d'être plus relâchés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est facile d'avoir des déclics contre Bruges en ce moment, parce qu'ils ont quand même pris 18 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe qui joue beaucoup. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, Bruges, qui avait fait un bon début de compétition, mais qui s'est un peu écroulé défensivement sur la fin. À force de vouloir jouer, ils sont perdus en route. Donc là, c'était pas très dur de leur mettre des buts. Et moi, je trouve que malgré tout, ce PSG, même hier, en gagnant 4-1, on voit toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts. À savoir les qualités, Mourad l'a bien dit, je ne vais pas revenir dessus.
Ouais.
C'est le PSG de Mbappé bien avant d'être celui de Messi ou de Neymar. C'est une évidence. Il est en train de passer un cap énorme. Il est absolument formidable. Et on voit qu'il y a un PSG avec ou sans Mbappé. Moi, je trouve que Messi, pour l'instant, il n'impacte pas plus que ça. Je le trouve moyen.
Ça manque de fluidité.
Je trouve qu'il rate des passes. Moi, je trouve qu'il rate des passes. Il y a du déchet. Donc, je suis pas très rassuré encore par Messi. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore complètement impliqué. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Je pense qu'on verra un autre Messi dans les matchs à élimination directe. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que la défense du PSG concède toujours autant d'actions. Moi, je regarde le premier quart d'heure. Dans le premier quart d'heure, on peut tourner à deux partout et c'est pas parce qu'il y a vraiment des situations dangereuses dans la surface parisienne. Et il y a toujours ce moment où on se dit bah voilà, hier c'est tombé du bon côté, c'est-à-dire ils ont marqué facilement sur leurs occasions et ils ont pas pris de but. Ça aurait pu tout à fait beaucoup plus mal se passer s'ils avaient pas eu de chance. On aurait pu aussi tourner à la mi-temps à 5-0. Attention, hein. Mais je trouve que le PSG concède trop de tirs, trop d'occasions. C'est un peu mon gimmick depuis le début de la saison. Je trouve que ce club-là, s'il veut aspirer à gagner la Ligue des Champions ou tout du moins à aller très loin dans cette compétition, il va falloir qu'il resserre les boulons derrière. Et pour l'instant, je vois pas de progrès dans, j'allais dire, le bloc équipe défensif.
C'est normal. Si tu continues à jouer avec deux défenseurs
centraux, pour toi, moral.
Alors que t'as recruté et que t'as l'effectif pour jouer avec trois défenseurs centraux.
On le dit depuis le début de l'année, Mourad.
Notamment l'utilisation d'Achraf Hakimi, qui pour moi est sous-utilisé, très mal utilisé par le Paris Saint-Germain, notamment par Pochettino, notamment sur le but de Messi, où on voit qu'il amène toute l'équipe de son côté, et en plus, on pourrait l'utiliser offensivement à la place de laisser très perméable.
Ça n'est pas un arrière-droit, et Nuno Mendes non plus, ce ne sont pas des arrière-droits
modernes.
Non, mais ce sont des latéraux. C'est des latéraux qui jouent haut, pas dans une défense à 4.
Utiliser ce type de match, voilà, pour essayer des nouvelles choses. On a vu aussi l'émergence. Pour moi, Habib Diallo est un très bon joueur. Pour moi, il a toute sa place.
Et surtout, très bon dans ce schéma à 3 défensifs.
Donc, à 3
très bon en axial gauche.
Il est bien à gauche, par exemple, avec Ramos dans l'axe, ou Kimpembe, Marquinhos. Donc, peu importe comment on peut s'organiser, mais il a les joueurs pour jouer avec 3 défenseurs.
Cet effectif est fait pour ça.
Donc voilà, après, moi j'ai été déçu, ben, si on veut parler des prestations individuelles, j'ai été déçu de la prestation de Gay, par exemple, responsable aussi sur le but de Bruges, dont on veut éviter justement ces côté parisien, ben, ces petites erreurs qui font que ben, on n'est jamais en confiance à 100%, où on donne le bâton pour se faire battre. Donc voilà, Idrissa Gueye qui n'a pas été très rassurant. De son côté, il y a Verratti, par contre, qui lui a fait un énorme match.
Le chouchou de Pochettino.
Donc voilà, donc blessé, pas blessé, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il fait le boulot. C'est vrai qu'il est souvent absent.
Et alors moi, j'ai envie de poser une question à mes deux collègues.
Alors, vas-y.
J'ai fait la défense, j'ai fait un peu le milieu de terrain, le trident offensif. On voit que Di Maria, Il est bon. Quand il est présent,
il
c'est bon. Lui qui
insuffle. Il y a une meilleure fluidité, une meilleure connexion avec les trois de devant.
Messi et Kylian Mbappé.
Ouais. On est d'accord que franchement, Di Maria, c'est pas moins bon que Messi, en tout cas dans ce PSG-là. Pour l'instant, je trouve, parce que lui, défensivement, travaille plus. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que concrètement, vous voyez un bloc équipe? Un collectif?
Mais non, mais parce que t'as trop d'individualité. En fait, c'est l'antagonisme du bloc équipe. Quand t'as trop d'individualité, c'est tout à fait normal que le bloc équipe soit hétérogène. Par contre, tu peux te reposer sur tes individualités pour gagner n'importe quel.
On a vu des grandes équipes avoir des grands. On a vu des grands blocs équipes avec des grands joueurs.
Oui, c'est.
On l'a vu.
Après, bien sûr.
Certaines fois, pas tout le temps.
Si tu fais les vieux.
Mais sans aller si loin.
Les vieux dossiers de l'histoire du football. Bien sûr qu'il y a eu des blocs équipes.
Ouais, là, tu remontes à loin.
Mais moi, je trouve que c'est ce qui manque. Le PSG, pour l'instant, c'est une addition. C'est une addition d'individualité. Et je trouve que justement, tu manques. Tu pointes du doigt un mec comme Idriss Agueil. Bah, comme il n'est pas suffisamment fort individuellement, eh ben, on va voir ses failles techniques parce qu'il n'est pas aidé par le mouvement des autres, il n'est pas aidé par ce qui se passe autour de lui. Et donc, ses failles vont être mises en lumière.
C'est à lui, justement, d'incarner ce collectif. Justement, c'est à lui d'incarner.
Bah, lui, il est là pour combler les brèches. Il y a trop de brèches à combler dans l'effectif.
Moral.
Comment ?
Oui, qui doit le faire ? Justement. Ben
justement, c'est des joueurs qui se mettent à disposition du collectif. Alors, qui se sacrifient à l'image d'un Makelele à l'époque des Galactiques au Real Madrid. Donc voilà, c'est le
mon équipe de France.
Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Claude Makelele faire des boulettes à l'époque des Galactiques.
C'est pas le même niveau après, hein. On ne parle pas du même dimension de joueur.
Bien sûr, mais il galère tellement à recruter à ce poste-là que je peux comprendre. Mais voilà, ben c'est à ces joueurs-là.
Moi, je reste persuadé que quand tu as des joueurs devant qui défendent aussi peu, on peut me dire ce qu'on veut sur Messi.
Il y a Wijnaldum aussi.
Wijnaldum, il y a un vrai sujet.
La star hollandaise.
Wijnaldum, c'est l'ombre de lui-même depuis qu'il a rejoint Paris Saint-Germain. Ouais. Je sais pas si c'est son cousin, si c'est son frère des Pays-Bas.
Quand même pas, arrête, tu le laisses rentrer son cousin.
Après, typiquement, Wijnaldum, moi, ça a toujours été un sujet pour moi parce qu'on l'a présenté pour moi plus fort qu'il n'était parce que justement, tu parles de collectif, enfin, où j'en parlais aussi. Quand on parle de Liverpool, par exemple, les joueurs, ils paraissent plus forts parce que le collectif est tellement huilé, est tellement fort, est tellement le schéma de jeu sont tellement implantés que les joueurs paraissent individuellement. Les joueurs
dans le schéma de Klopp.
Oui, et donc du coup les joueurs paraissent plus forts qu'ils le sont parfois. Moi, je serais curieux. Je serais curieux de voir ces joueurs de Liverpool qu'on cote très très fort s'exporter et voir ce qu'ils valent dans un autre système. Ce sont des très forts joueurs, des Mané, des Salah qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde. Je serais curieux de voir s'ils seraient aussi performants dans d'autres systèmes et d'autres équipes.
Ouais.
Et donc Wijnaldum, qui avant Liverpool n'était pas hyper coté, c'était un bon joueur sans plus. Il était bien coté, c'était un bon joueur de première ligue. Là, on a voulu faire croire quand il est signé au PSG que c'était un des meilleurs milieux de terrain du monde qui signe au PSG. Et moi, je l'ai jamais perçu comme ça parce que pour moi, on voit les joueurs
à
Liverpool.
Je sais pas ce que tu dis. Tu
regarderas quand même. Tu regarderas. Dans l'équipe, ils ont quand même dit que c'était le coup de l'année, que c'était un des meilleurs milieux de terrain relayeurs du monde qui arrivait, que c'était le capitaine des Pays-Bas, que c'était un joueur de classe mondiale.
On a parlé quand même.
Pour moi, ce n'est pas
ce niveau-là.
Mais on est d'accord. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que finalement, au PSG, où on voit sa vraie valeur parce qu'il se retrouve à être un peu plus tout seul et pas être sublimé par le collectif comme il l'était à Liverpool, on voit peut-être pas sa vraie valeur, je suis un peu dur, mais une valeur qui est différente. Et ça sera le cas pour beaucoup de joueurs. Moi, il y a beaucoup de joueurs qu'on nous vend ultra fort à Liverpool. D'ailleurs, Liverpool, on peut faire un aparté qui était tellement forte en Ligue des Champions en gagnant 18 points. Ah oui, c'est vrai que c'est le deuxième sujet. Donc mais tu vois, des Robertson, des Trent Arnold, ils sont moins forts en sélection, ils baissent d'un ton.
Bien sûr,
moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, quand tu les sors.
C'est le
schéma tactique.
À voir. Assommer l'année. Avec le match de Zlatan Ibrahimovic. Oui, Mourad. Avant de donner la parole aussi à Yasmine.
Alors, tu voulais parler de quoi? De Liverpool?
Je voulais parler. Non. Liverpool, je vais en reparler après.
Ou justement du Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain, on reste sur le Paris Saint-Germain. L'homme de Mauricio Pochettino. Alors,
il y a aussi Pochettino aussi. Ben, je sais pas si on pourrait le pointer du doigt, mais moi, j'attends de lui maintenant à ce qu'il sorte la tête de sa coquille. J'aimerais bien le voir un peu plus présent sur le banc, un peu plus communicant.
Là, moi, j'aimerais qu'on voit quelles sont ses idées vraiment.
Là, on va passer.
Ses idées tactiques.
C'est lui qui disait jugez-moi sur ma seconde saison. Là, on est en plein dedans.
Ouais.
Là, on a fini les matchs aller en Ligue 1 et on arrive aux éliminatoires de Ligue des Champions. Donc, moi, j'aimerais bien le voir un peu plus. Il y a aussi Donnarumma. Donnarumma, hier, moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel.
Il sort de belles parades quand même.
Mais balle au pied, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a
Souvent le problème des gardiens italiens. Souvent le problème des gardiens italiens.
C'est un vieux dans un corps de jeunes. Il gaule comme un.
Un gardien des années 2000. 90-2000, c'est ça.
C'est Peruzzi.
T'es un peu dur.
Yasmine, Paris Saint-Germain, Yasmine.
Pour moi, le PSG n'est pas encore, on va dire, un collectif. Il compte trop sur des individualités comme Mbappé. J'ai l'impression surtout que le PSG essaye de s'adapter à Messi, alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être Messi qui devrait s'adapter au PSG. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il se cherche beaucoup encore. Même si, moi, je pense que quand même, il y a eu du mieux par rapport à ces derniers matchs en Ligue des Champions. Il y a une meilleure connexion, une meilleure fluidité. Et je pense que ça sera de bon augure pour la suite du PSG. Si Messi arrive à se réveiller, à faire de très bons matchs encore.
Bah, moi, je ne l'ai pas encore vu faire de très bons matchs. Tu me dis de très bons matchs encore, il n'a pas fait un très bon match hier. Ce n'est pas du tout ce que j'attends de Messi.
Ça a été son meilleur match quand même.
Ça a été correct face à une équipe qui était très dominée.
Après, le but qu'il met, il est exceptionnel.
Non, son, ouais, mais quand ça, même, c'est... un doublé. Elle n'a pas tort.
Il y a des passes et des tirs qu'il a fait. Bah alors, peut-être il y a 2-3 semaines, il aurait pas mis.
Je t'inviterai à regarder les passes qu'il fait. Il en rate quand même quelques-unes. Il rate pas mal de passes. Moi, je trouve justement. Son but, alors on est d'accord, c'est du Messi. Ce truc-là, il va le mettre souvent. On la connaît. Pour l'instant, moi, je trouve que justement, dans ce rôle de relais, dans ce rôle d'organisateur, il est très peu présent. On a l'impression qu'il attend l'action pour se mettre en valeur et marquer ce but, comme il le fait contre City. Cette frappe à l'entrée de la surface qui maîtrise.
C'est plus le Messi.
Non, mais on est d'accord.
Des années 2010.
Mais c'est bien le problème. C'est bien le problème, c'est que un joueur d'à coup dans ce PSG là, est-ce qu'il arrive à fluidifier le jeu?
Si tu joues par à coup et tu marques.
Oui. Non, mais tant que ça marque, c'est bien. Tant que ça marque, c'est bien. Mais on l'a bien vu qu'il avait été très médiocre à City quand le niveau s'est élevé. Moi, c'est un peu ce que je crains pour l'instant. Alors, moi, je reste dubitatif vis-à-vis.
C'est lui qui enfonce le clou sur le deuxième but.
Non, je parle pas du but de City, je parle du naufrage collectif. Justement, dans les naufrages collectifs, t'attends les capitaines et les tauliers. Bon, après, je crois que ce joueur-là attend les phases finales. Mais moi, plus profondément sur le cas Messi, je me demande s'il a vraiment envie d'être là.
Ouais.
Concrètement, j'ai l'impression qu'il est venu prendre l'état de bain, qu'il est venu prendre la pré-retraite et qu'il n'est pas complètement encore impliqué dans le projet. Ça va peut-être venir.
Bien sûr.
Mais pour l'instant, je trouve qu'il parle beaucoup de Barcelone, qu'il s'exprime beaucoup dans les journaux médias Barcelone, disant je reviendrai un jour, je vais être présent.
C'est tout à fait normal.
Non, mais je suis d'accord. Mais ouais. Si, excuse-moi, je pense
il
que si.
Il est arrivé sur Paris.
Ouais, bah, le problème, c'est qu'il souffre.
Oui, mais après, si tu parles de ton ex à chaque rendez-vous avec ton nouvel amour, c'est compliqué.
Quand même pas, mais non, Yasmine, il en abuse là.
En même temps, oui, ouais. Il dit qu'il souffre de la neige et du froid. Je sais pas où est-ce qu'il a vu la neige aussi, mais bon.
C'est culturel pour lui. Hein.
Ouais, choc culturel.
Il faut arrêter de lui trouver des excuses.
Bien sûr, oui, le Paris Saint-Germain, loin devant, est grand club. Ça, c'est sûr en tout cas. On espère le bien pour le Paris Saint-Germain dans cette édition 2021-2022 de cette Champions League. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On arrive assez vite avec Latifa Oulkir, directrice de la rédaction de chez nos confrères du Bondy Blog. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 21h, le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous. La réalisation avec Giovanni et Yannis se feront un plaisir de vous faire passer à l'antenne. Allez, place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The special one.
Latifa Oulkir, justement, qui est avec nous pour la première fois dans cette émission, qui est Time Sport. Bonsoir Latifa.
Bonsoir.
Vraiment un plaisir de vous avoir. Autorisé en 2010, les paris sportifs, Latifa, en ligne, font désormais partie du quotidien des quartiers populaires. Mais le développement de comportements addictifs inquiète tout de même, encouragé par des publicités ciblées, des partenariats aussi bien choisis. Je cite, si je peux me permettre, sur ce magnifique reportage que vous avez réalisé, j'ai touché mon RSA, le 6. Je me suis senti pousser des ailes et j'ai misé 50 euros en suivant des pronostiqueurs et j'ai encore perdu. Latifa, ça fait des ravages, tellement, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. L'important pour nous, quand j'ai écrit ce premier papier, c'était en mois de février, c'était que je pense que tout le monde pouvait observer un ciblage qui était particulier de la part des opérateurs de paris sportifs. L'important, c'était de donner la parole finalement aux parieurs et à ceux qui se retrouvaient dans des situations compliquées ou nous, qui étaient en prise en tout cas avec cette addiction. Et c'était vraiment notre objectif principal parce que tout le monde a vu ces campagnes partout. Et l'important, c'était de parler des conséquences de ces campagnes-là et de ce ciblage extrêmement agressif, très ciblé, etc. Et voilà. Et puis c'était une réalité, nous, au Bondy Blog, que l'on constatait, voilà, autour de nous. Donc la plupart des sujets viennent de ce qu'on observe au quotidien, évidemment, comme beaucoup de journalistes. Donc voilà, ça nous paraissait important de faire ce premier papier. Donc il a été de février. Ensuite, on a fait un autre sur les pratiques qui étaient abusives de ces opérateurs. C'est-à-dire que des opérateurs ont tendance à encourager les joueurs qui perdent. C'est-à-dire qu'on voit que vous pariez beaucoup. Et ben on va vous inviter à des places en VIP pour revoir un PSG Lyon, en tout cas des affiches de Ligue 1 par exemple assez importantes. Et puis quand on voit que vous êtes partie du moins de 1% qui joue raisonnablement et qui arrive à gagner sa vie avec ça, et bien alors là on va vous bloquer vos mises pour des raisons assez cyniques, c'est-à-dire qu'on va vous bloquer vos mises en vous disant que vous êtes sûrement addict, ce qui est absolument aberrant comme système. Donc voilà, on a essayé d'enquêter sur cette intégralité là. Et puis ensuite, enfin, de voir toutes les facettes de la réalité. Et puis c'est un travail dont, qui a été beaucoup repris, notamment au moment de l'Euro, parce qu'à ce moment-là, tout le monde pouvait voir. Tout le monde pouvait voir le matraquage publicitaire qui était celui de ces opérateurs.
Ouais, aussi. Il y a tant de choses à dire. On va laisser les consultantes, les consultants aussi de cette émission, mais aussi le standard. Oui, Louis-Marie, il aimerait réagir. Alors, Louis-Marie.
Ah, moi, j'ai regardé avec attention justement des extraits de votre reportage. Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, en étant tout à fait honnête, j'avais même pas fait attention, en fait, parce que je ne suis pas la cible, sans doute. Et effectivement, c'est vrai, quand on regarde avec du recul, avec l'axe et l'angle de vue que vous avez souligné, c'est vrai que c'est absolument effrayant de voir à quel point l'angle d'attaque de ces publicités est dangereuse. Et dangereuse pour les publics ciblés.
Ouais.
Donc, ma question, elle est juste simple. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arrêter ça? Est-ce que ça passe par une législation différente? Mais en même temps, légiférer, c'est aussi créer des vides juridiques qu'ils s'empresseront de combler et des détournements qu'ils vont aussi vite créer. Enfin, qu'est-ce que vous préconisez, vous, après avoir fait toute cette étude-là? Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit mis en place, concrètement?
Déjà, il faut savoir que l'autorisation des paris sportifs qui datait de 2010, la législation a été faite à la va-vite parce qu'il y a la Coupe du Monde qui est arrivée à ce moment-là et qu'il fallait vraiment 2012, voilà, et extrêmement, enfin voilà, il fallait vite légiférer, etc. Donc, on a complètement occulté l'aspect sanitaire et l'aspect prévention des risques, etc. Donc, c'est quelque chose qui manque vraiment dans la loi aujourd'hui. Et c'est très facile de retrouver des prises de parole de ministres des Sports à l'époque qui, en 2012, 2013, 2014, ont dit « Ah oui, il faut qu'on s'occupe de l'aspect sanitaire ». Nous, ce qu'on a fait, c'est pointer le problème en tant que journaliste. L'autorité nationale des jeux, bien évidemment, a répondu à nos interrogations. On a organisé une rencontre avec l'autorité nationale des jeux, le patron d'une agence d'influenceurs, le média Bouscapé qui a décidé d'arrêter notamment les publicités pour les paris sportifs après notre travail.
Donc, ouais.
Chapeau
un,
à eux, hein.
Un ouais. collaborateur ah bon parlementaire, etc. Voilà. Où on s'est dit qu'est-ce que l'on peut faire. Finalement, il y a une grande consultation là qui est menée. À la fin de l'année, on va avoir ces résultats où l'autorité nationale des jeux va fournir ses préconisations au gouvernement pour savoir comment on fait. Donc, dans d'autres pays qui sont des grands pays de football comme l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre, par exemple, en Espagne, le parti de gauche a milité pour que l'on puisse, par exemple, interdire ces publicités-là aux horaires où les plus jeunes sont devant la télé, qu'on puisse interdire des personnalités qui font partie de l'environnement des mineurs de faire ces pubs-là.
Mais le jeu n'est pas interdit aux mineurs ?
Oui,
le pari sportif,
en tout cas, c'est évidemment interdit. Mais quand on voit, par exemple, les opérateurs de paris sportifs miser énormément sur TikTok, on sait qui est sur TikTok.
Ouais.
Et en tout cas, c'est quelque chose. Enfin, c'est une réalité. Mais en tout cas, même qu'il faut partie de l'univers des jeunes hein, ou des plus jeunes.
Mais donc, concrètement, rester sur cette histoire, sur cette histoire de mineurs, parce que avant d'être interdit de paris sportif, j'y suis allé. Concrètement, on nous demande la carte d'identité. Comment c'est possible aujourd'hui que des mineurs se retrouvent dans une situation de pari sportif, ce qui semble être le cas, vu que ce sont des pubs qui sont ciblées vers eux, ou des jeunes actifs? Comment on peut retrouver des mineurs qui parient?
Non, mais tu sais qu'il y a 15 jours entre être mineur et être majeur. Un gamin de 17 ans et 364 jours peut avoir comme ami une personne adulte de 18 ans et un jour, par exemple. Et du coup,
ils
peuvent se partager les comptes et ce sont des bandes de copains, généralement.
La réponse avec la TIFA.
Oui, ça c'est sans difficulté hein, pour des mineurs de pouvoir jouer, mais c'est même pas tant que le problème des mineurs. Il y a le problème des mineurs et le problème globalement des adultes et des jeunes et du problème de l'addiction. En tout cas, pas tellement d'obstacles à ce qu'on permette. Effectivement, il y a les vérifications légales, mais on connaît plein de. Enfin, en tout cas, je connais pas mal de mineurs qui arrivent à jouer malgré ça.
Oui, parce que.
Non. Alors, moi, on poursuit avec Yasmine.
Elle a tout à fait raison. Je pense que c'est.
Et la vérification, notre invitation.
Elle doit s'accentuer au niveau des propriétaires de comptes sur les sites de paris.
C'est ce que j'allais dire. Et puis les deux comptes en banque qui fournissent l'argent.
Ouais. Moi-même, j'ai joué, donc je joue un peu moins, mais les deux. De mémoire, les documents demandés sont carte d'identité et justificatif de domicile. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin.
Mais le risque peut pousser.
Parce que c'est une question de revenus aussi. Ça fait des ravages auprès des populations les plus précaires, éventuellement des bas revenus. Donc lorsque tu touches un RSA et que tu uploades ta carte d'identité et ton justificatif de domicile pour pouvoir jouer, je pense que c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a aussi une protection à avoir au niveau des revenus. Ça veut pas dire que simplement les plus riches peuvent jouer.
C'est ce que j'allais te dire. C'est quelque part, c'est un peu discriminatoire, non ?
Entre la passion et le risque. Voilà.
Oui, mais à un moment donné, alors, c'est des opérateurs de paris sportifs, donc c'est des, c'est du commerce. Et aujourd'hui, si pour eux, les joueurs, en tout cas, qui sont les plus déficitaires, représentent 6%, c'est un peu plus d'1,3 million de joueurs, et eux seuls génèrent 40% du chiffre d'affaires des opérateurs de paris sportifs. Donc, s'ils se privent de ces 6% là, ils se privent de 40% de leur chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez colossal en termes de revenus, quoi.
Est-ce que ce sont ceux qui ont des revenus les plus bas qui sont les plus rentables justement pour les sociétés de paris sportifs.
En fait,
je ne pense pas.
Non, mais c'est ce qu'on se dit, mais finalement, donc c'est pas nouveau, hein, les paris sportifs, le tiercé, etc. Les classes populaires et les jeux de hasard, c'est une longue histoire, elles datent pas de.
Oui, c'est comme le loto, ce sont pas les classes riches qui jouent au loto.
C'est ça. Donc le problème, c'est que c'est bien établi, mais effectivement, en fait, on se rend pas compte de tous les jeux. Enfin, on classe les joueurs, donc ceux qui ont une consommation modérée, excessive, etc. Et les paris sportifs de tous les jeux de hasard sont ceux qui représentent le plus de risques sur le plan individuel. Donc, en fait, c'est évident que, en fait, ces opérateurs de paris sportifs font leur argent sur ceux qui perdent. C'est évident et indéniable.
Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui existent à l'heure actuelle ?
Ça, c'est aussi un problème à soulever, je pense. C'est que moi, quand j'ai fait ce travail, je suis allée à la recherche d'associations dans les quartiers populaires, d'éducateurs, etc., qui sensibilisaient là-dessus, notamment, par exemple, dans les clubs de foot. On sait que, bon, évidemment, pour d'autres sujets, il y a des sensibilisations aux paris sportifs à destination, par exemple, de l'équipe de France et des joueurs pour, ils ont évidemment pas le droit de parier, etc., mais moins pour les fans de football. Évidemment, il y a des numéros qui existent, hein, Joueurs Info Service, où il y a SOS Joueurs, des petites associations comme ça, qui œuvrent depuis longtemps, mais qui s'occupent de toutes les addictions au jeu, finalement. Et je pense que pour les paris sportifs, en fait, il faut utiliser d'autres codes et être plus présent sur les réseaux sociaux, plus présent sur les campagnes de sensibilisation. Et c'est peut-être une des idées qui a émergé de la dernière rencontre que l'on a fait avec tous les acteurs, c'est-à-dire peut-être qu'il faut ringardiser ces opérateurs-là et montrer clairement avec les codes qui sont ceux de la jeunesse aujourd'hui à quel point ces paris-là font des ravages.
Mais alors, justement, on parlait de SOS Joueurs. Excusez-moi, Lumarie Armelle Achour, directrice de cette association SOS Joueurs et psychologue, qualifie de catastrophe à ce qui est en train de se passer carrément. Je cite, ça cible vraiment les jeunes de quartier et ça reprend tout leur code. C'est assez impressionnant. Ouais. De même.
Oui, il suffit de. C'est vrai que quand on. Bah, tout à l'heure, hein, ce que vous disiez, Louis-Marie, sur quand on prend un peu de recul, on se dit, finalement, quand on voit tous ces rappeurs, tous ces influenceurs, etc., c'est pas très compliqué de faire un pas de côté, de se dire, d'accord, je vois qui c'est.
Moi, j'ai découvert justement tout ce ciblage et ce matraquage marketing il y a 2-3 ans, où c'est vrai que les codes étaient repris, il y a même des mots d'argot, il y a des mots en arabe.
Carrément.
Les dress codes, les tenues vestimentaires, il y a plein de choses qui sont reprises, mais là c'est encore plus dangereux parce qu'ils le font avec les moyens d'aujourd'hui. C'est pas que Omar Sharif à l'époque du PMU. Ouais. Aujourd'hui c'est le symbole.
Ouais, c'est sympa Omar Sharif, grand acteur.
Avant c'était Omar Sharif, c'était le symbole marketing des jeux de hasard et du PMU, etc. Là maintenant il y a tous les réseaux sociaux, il y a le retargeting, il y a tous les personas qu'ils peuvent faire en fonction des comportements de navigation, en fonction de comportements d'achat, etc. Donc c'est. Et les mots-clés qui sont où les jeunes se reconnaissent, justement, derrière ces publicités. Donc, c'est encore plus violent.
La dernière fois, j'avais vu, justement, si tu paries, tu vas sortir la daronne de la rue.
Oui.
Je trouve ça incroyable, quand même, parce que...
Ça met même une pression sur les gamins.
On peut le dire, c'est une citation. Qui est connu pour cette... Moi, qui me fait très rire.
Si tu paries et que tu gagnes, tu vas même pas être le meilleur de la cité ou le plus fort de la cité. Mais tu vas vraiment... Ça va être un vecteur d'ascension sociale. C'est énorme.
Ce qui est assez incroyable, c'est avec ce spot Tout pour la Daronne qui est sorti au moment de l'Euro cette année, c'est qu'il a été fait par Winamax pour remplacer le précédent qui était, je crois, le roi de la cité, ou en tout cas où quelqu'un était porté comme ça au nu dans un quartier pour montrer que il était
celui
qui avait
gagné. C'était un peu le roi lion, quoi.
Un peu comme Simba,
et en fait on nous sort maintenant tout pour la daronne, et ce qui est assez effrayant, c'est qu'il y a une réglementation autour de la publicité pour les paris, et on nous dit que les publicités ne doivent pas contribuer à mettre en avant de la réussite sociale et dire que les paris permettent la réussite sociale. Or dans Tout pour la daronne, on a un gamin qui parie et sa mère monte dans un ascenseur.
C'est l'ascenseur social.
C'est un ascenseur.
C'est même pas caché. La métaphore, elle est même pas subtile.
On peut avoir un règlement qui interdit le fait que la promotion commerciale ne doit pas indiquer que les paris permettent la réussite sociale, et avoir d'un autre côté une publicité où on voit un ascenseur.
Là, visiblement, la réglementation n'a pas été respectée. Moi, je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez, au sein de votre de, justement de votre enquête, a vu un rapport directement avec ces opérateurs de paris sportifs. Est-ce que vous avez discuté avec eux ou pas du tout? Quel est votre rapport avec eux?
Non, mais évidemment, dans le cadre de notre enquête, pour le principe classique du contradictoire en journalisme, on a évidemment sollicité tous les opérateurs de paris sportifs les plus connus, Winamax, Betclic, la FDJ, etc., pour les informer en février, bien avant que sorte le premier papier, pour leur dire quelle est votre version en fait. Voilà, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Un opérateur m'a répondu qu'ils étaient occupés à faire du business, donc ils pouvaient pas me répondre. Un autre opérateur ne m'a pas répondu.
C'était en plein euro.
Non, c'était en début d'année. C'était vers janvier.
Quand même pas avec l'invité.
Pendant les grandes compétitions.
Oui, bien sûr. Mais même, je regardais les offres d'emploi. Ils recrutent énormément de gens pour la période de l'euro, etc. Et donc la FDJ nous a répondu et on a mis ça dans l'article où ils ont dit voilà qu'ils respectaient la législation, etc. Bon après le truc avec la FDJ c'est qu'il
c'est pas le plus agressif.
C'est l'opérateur historique. Donc comme il a été longtemps dans une position de monopole sur le domaine, c'est plus facile quand on est en monopole de développer un peu un volet prévention vu qu'on est tout seul.
Et c'est vrai que c'est pas leur pub qui pose problème quand on regarde un peu.
Il y a pu avoir 2-3 mais effectivement
c'est pas celles qui me viennent tout du moins.
La directrice de rédaction Latifa qui est toujours avec nous de sur nos confrères du Bondi Blog. Oui, Yasmine.
Je compare ça un petit peu à la consommation aussi de tabac. On retrouve à peu près la cigarette, à peu près la même population en fait qui consomme le plus en France et en Europe de tabac. C'est-à-dire que il y a un lien, on va dire, de plus en plus important et même qui se renforce entre le diplôme, l'emploi et le revenu. Moins on va gagner, moins on aura de revenus, moins on sera diplômé et plus on va être amené du coup à faire des paris ou à consommer du tabac, etc. Donc on va retrouver finalement ces milieux défavorisés. Donc il y a de plus en plus de parieurs qui vont consacrer une part de leurs revenus dans les paris, dans le tabac ou peu importe. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir en fait pourquoi ils vont persister du coup à continuer à parier finalement. Donc il y a plusieurs hypothèses. Je pense qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites dessus. C'est vrai que peut-être que certains ont plus de difficultés à comprendre un petit peu, à être un petit peu moins sensibles, on va dire, à ces campagnes ou à la difficulté en fait de devoir parier. Il y a aussi le manque d'information de la part des autorités sanitaires. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Moi, en tout cas, j'en ai pas beaucoup vu. Je ne sais pas ce qui se fait encore actuellement. Et puis, là encore, ces milieux populaires, ils vont plus voir leur vision, voir un petit peu leur vie sur du court terme. Ils ne vont pas essayer de voir un petit peu leur vie sur du moyen terme,
Mais
du long terme.
Est-ce que tu crois sincèrement que ces populations-là sont sensibles aux messages sanitaires qui viennent très institutionnels, qui viennent de l'État? Moi, je crois qu'ils ne sont pas sensibles à ça. Je me trompe peut-être, et c'est un peu ce que disait Latifa, de justement rentrer dans leur code pour faire des messages qui soient beaucoup plus ciblés et qu'ils entendront peut-être. Parce qu'effectivement, j'imagine mal ce genre de population se dire prendre vraiment au pied de la lettre. La mise en garde, comme on peut la voir sur, c'est pas bien, comme la mise en garde sur les paquets de cigarettes, fumais-tu? Visiblement, ça n'a jamais empêché personne de fumer.
Le problème, c'est que tant que tu fais de la communication sur les réseaux sociaux, sociaux, notamment Snapchat, TikTok, etc., qui consomme plus ces réseaux sociaux-là, ça va être la part, c'est 18-35 ans à peu près. Donc, du moment qu'ils investissent, ils font de la communication de masse sur ça, ils seront automatiquement touchés.
Latifa, notre invité, réaction suite à cela?
Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu 2-3 rappeurs suite à notre travail qui, bon, évidemment, continuent à faire les pubs pour les paris sportifs, mais qui ont ajouté une mention à la fin sur leur story en disant si vous êtes mineur, ne jouez pas, ou alors faut s'y connaître un petit peu, ou des choses comme ça. Donc, qui ont quand même fait un message de prévention qui devrait être déjà obligatoire parce que, les obligations aujourd'hui, en tout cas sur les affiches, c'est de mettre un numéro où on peut appeler si on est en situation et de dire voilà, jouer provoque des risques, endettement, etc., mais c'est en tout petit, donc c'est pas assez suffisant. Mais je pense que, comme je disais au début, le volet sanitaire a été bâclé par le législateur en fait au début des années 2010, et donc là-dessus, c'est là-dessus nous on se dit faudrait peut-être revenir là-dessus. Il y a eu des hommes politiques, des députés, etc., qui s'en sont emparés pour voir ce qu'il était possible de faire. Mais voilà, après, c'est entre guillemets plus dans nos mains.
Il faut comprendre que ça accentue quand même encore les inégalités sociales, ouais. Et ça rend les pauvres, on va dire, encore plus pauvres finalement.
Oui, avant c'est ça. Mais surtout aujourd'hui, dans un monde où, en tout cas pour les plus jeunes, c'est vrai que quand on consomme beaucoup les réseaux sociaux, on passe toute la journée à voir des gens qui vivent tellement bien. Alors, ouais. Je crois que jamais auparavant.
Ouais, ça met un problème peut-être.
Jamais ouais. Auparavant, on a vu. Alors. On était aussi autant dans le quotidien des gens riches. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, en tout cas, même moi, j'ai 31 ans, quand ouais. J'étais plus jeune, je savais qu'il y avait des riches qui existaient, mais je ne connaissais pas leur train de vie. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit leur train de vie, en fait. Ah, ça peut être assez frustrant quand on est gamin.
Ah, bah, la communication a fait tomber le mur de Berlin, mais c'est un peu le système.
En 1989, oui. Alors, Mourad, rapidement avant la pause.
Il y a des influenceurs aujourd'hui qui sont, on va dire des monstres médiatiques, ouais. Et qui incitent justement au pari sportif. Est-ce que du côté de Latifa et du Bondy Blog, ils ont identifié des influenceurs aussi importants et aussi, on va dire, populaires que Mohamed Henni pour faire contrepoids ? Est-ce qu'elle a des noms à nous citer éventuellement ?
Ouais.
Oui, bien sûr.
Allez, rapide.
Notre travail a été relayé. Il a fait une petite vidéo, Just Riyad, par exemple, ouais. Pour ne citer que lui, ouais. A pris clairement position en disant j'ai fait une ou deux pubs pour les paris sportifs à mes débuts et là maintenant je refuse d'en faire.
Il arrête. Elle reste avec nous, Latifa Oulkouir, justement la directrice, excusez-moi, de la rédaction de chez nos confrères du Bondy Blog. On fait une courte pause et on revient rapidement, encore avec les paris sportifs et aussi le football européen, excusez-moi.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, 20h, 21h en compagnie de Yasmine, notre consultante Mourad et aussi Louis-Marie, sans oublier notre invité pour la première fois dans cette émission qui est Time Sport, Latifa Oulkouir, justement, qui est directrice de la rédaction du Bondy Blog. Une réaction de Nasser qui nous en fait part sur les réseaux sociaux. Comment endiguer ce fléau, Latifa?
Non, je pense qu'il y a tout un travail de prévention à faire auprès des associations de quartier, des clubs de sport, parce qu'on voit de plus en plus de plus jeunes jouer. Donc, je pense qu'il faut vraiment des personnes formées sur le terrain à ces thématiques-là, à l'addiction en fait. Il faut vraiment prendre ce problème-là comme un problème de santé publique, ouais. Comme pour d'autres
comme
addictions.
Une drogue, on peut le dire.
Et oui, bien sûr, c'est ouais. Vraiment les mêmes mécanismes d'addiction. C'est la seule addiction en fait qui est pas liée à une substance, mais à une pratique. Et c'est vraiment la seule. Donc il y a ça, tout ce travail-là à faire. Et puis évidemment, ce dont on parlait tout à l'heure et ce dont parlait Yasmine, de campagne de sensibilisation qui soit à destination des jeunes et qu'on prenne des influenceurs, comme ça a été dit, qui s'adressent le plus à la jeunesse.
Oui, Mourad, pour terminer sur le sujet.
Non, mais moi ce qui
avant de partir
qui
du côté de l'Espagne.
C'est un marché qui est croissant. Donc à chaque compétition, ça grossit encore plus, d'un euro à un mondial, etc. etc. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'évaluer le marché des paris sportifs en France?
Oui, c'est 777 millions de chiffre d'affaires pour le premier semestre 2021.
Waouh!
Pour le premier semestre.
Non, c'est énorme.
C'est un record depuis l'ouverture à la concurrence. Et voilà.
Ouais, ça, c'est incroyable. Yasmine, ça reste.
C'est plus que le chiffre d'affaires d'une société du CAC 40, hein, par exemple.
Ouais. Ouais, après, ils sont plusieurs à se partager le gâteau, mais en tout cas, toute l'activité des jeux en ligne, elle est portée par les paris sportifs.
Et ça ne va aller qu'en sa croissance, c'est une évidence. Ouais.
La Coupe d'Afrique arrive, et sans oublier aussi le Mondial au Qatar 2022. On va s'attarder, reste avec nous, Latifa, c'est promis, chers auditrices et auditeurs. On part du côté de Madrid.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Eh oui, c'est Antoine Griezmann, le chef-d'œuvre d'Antoine Griezmann avec les Colchoneros, Mourad, Louis-Marie, Yasmine et Latifa.
Ouais. Quel chef-d'œuvre.
Il a juste marqué, ils ont juste gagné.
C'est le but le plus facile de sa vie. C'est un plat de pied important. Après, moi, ce que je salue, c'est justement sa passe décisive. Que elle, par exemple, que je trouve exceptionnelle. Puisqu'il est dos au jeu, deux coups d'œil, il lance dans la profondeur Cunha. Donc, ça, j'ai trouvé ça justement très. Très louable de la part d'Antoine Griezmann, mais libérer l'Atlético Madrid. Là, il est vrai qu'on a retrouvé un Atlético Madrid agressif, sans pitié, avec la vraie méthode El Cholo. Donc ça faisait plaisir, mais Griezmann.
Ça reste.
C'est pas le Griezmann de 2019. J'ai regardé le match.
Ah, il est dur. Allez, il est dur avec l'international français, Mourad. Allez, Yasmine.
Je pense que Griezmann revient bien. Il a marqué 4 buts en Ligue des Champions, soit autant de buts qu'avec le Barça en 16 matchs de Ligue des Champions. Donc,
c'est pas
même,
mal.
Là, c'est plutôt pas mal.
Il est bien,
on peut pas résumer aux statistiques.
Alors,
ça veut pas toujours tout dire. La réalité, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire je pense que Griezmann va mieux et que le renouveau de l'Atlético passera par lui quelque part. Après, on n'est pas encore sur le grand Griezmann. Après, est-ce qu'on le retrouvera? Moi, j'en suis pas certain. Il arrive en fin de carrière. C'est pas certain qu'il revienne au niveau qu'il a connu où il était vraiment exceptionnel parce que particulièrement.
On l'espère.
Je parlais tout à l'heure de joueurs qui étaient en surchauffe par rapport à un système grâce à la mise en lumière d'un système. Griezmann a peut-être fait partie de ces joueurs-là à l'époque du très grand Atlético où tout était tourné autour de lui et où le système était tellement bien rodé, tellement huilé que finalement il paraissait extraordinaire alors qu'il était peut-être un peu en dessous de ce qu'on pouvait penser.
Il a l'air de mieux jouer quand même sans Suarez par exemple.
Ça a à voir après.
Suarez n'est plus un pied devant l'autre.
Hein. Suarez est fatigué.
Un mal pour un bien puisqu'il jouait constamment en une touche parce qu'il arrive plus à percuter.
Je trouve qu'il a pris un coup de vieux, Suarez.
Techniquement, c'était très limité et Cunha a apporté justement cette vista de la profondeur justement à la passe de.
Oui et puis cette vista et le fait de ce de il apporte un volume de jeu offensif. Cunha il est généreux dans l'effort, ce joueur.
Non, Cunha c'est incroyable. Après il y a la prestation d'Oblak aussi qu'il faut saluer.
C'était
un match hyper violent. Il y a eu un carton rouge des deux côtés.
On est retombé dans l'Atlético classique.
Très loin. Petit clin d'œil à Lille. Atlético Madrid est dernier, justement, de ce groupe.
Après, faut regarder.
Avant ce match.
Ils peuvent remercier. Ils peuvent quand même remercier. Deuxième, ils peuvent remercier Liverpool dans ce groupe, parce que Liverpool qui a fait le boulot. Parce que
alors
non 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 mais quand tu quand
ils
t'es à 15,
ils arrivent avec
ils arrivent à 15 points au Milan qui joue la qualif. On aurait pu penser que Liverpool jouerait pas le match à fond. Ils sont allés gagner à Milan. Ils ont pas faussé le jeu. Ils ont pas faussé les résultats. Alors qu'ils avaient aucun intérêt finalement à gagner ce match. Donc, ils peuvent aussi être
Latifa, on écoute Latifa concernant Griezmann aussi, l'Atlético de Madrid. Allez, un petit mot.
Moi, pour évidemment quelqu'un qui suit le foot avec un peu plus de distance que vous, sans pour autant être une footix. Moi, je suis d'accord que, en tout cas, on entendait moins parler de Griezmann et je suis pas sûr qu'il retrouvera quel qui était le niveau, mais en tout cas, qui était plus élevé qu'aujourd'hui. Je pense vraiment que, enfin, je l'attends plus, en tout cas.
La France pour le mondial 2022, vous l'attendez? Oui. Avec Benzema, tout de même. On l'espère.
Ça, on sait pas.
C'est vrai, Latifa.
Ah non, non, on est.
Comment ça, on sait pas?
On sait pas. On espère. Pas de blessure et qu'il sera là. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas mettre le couteau sous la gueule?
Moi-même, on sait pas si demain je prendrai le métro.
On sait pas. Oui, mais attends, mais on sait pas.
Tu sais que il y a eu des joueurs demain,
il méritait le ballon d'or, il l'a pas eu.
Demain n'est pas une certitude, mais une ambition, Mourad.
Euro 2016.
Il méritait pas le ballon d'or, c'était Lewandowski qui le méritait, faut pas déconner.
Non.
Il n'y a pas d'objectivité autour de cette table sur Benzema.
On va voir.
Que j'adore en demeurant, mais le ballon d'or serait dû être Lewandowski.
Je ne sais pas si on aura avec la coupe arabe. On y va.
Juste parce que tu.
Time Sport, le mode pressing.
La coupe arabe avec les quarts de finale, la Tifa. Vendredi 10 décembre, la Tunisie, les Aigles de Carthage, Oman, le Qatar face aux Émirats Arabes Unis, ça promet, 20h. Et le samedi 11 décembre, l'Égypte-Jordanie et un délicieux Maroc-Algérie. Voilà, pour ces quarts de finale. Qui l'emportera? Le Maroc-Algérie.
On va quand même dire que le dessert est quand même plus sympa que le reste du menu.
Lyon de l'Atlas.
C'est quand même le match le plus intéressant de loin parmi les quatre.
Et face au Fennec, justement, la sélection d'un certain Jamel Belmadi. Alors?
Moi, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer sur ce type de match.
Il ne faut pas s'enflammer. Sur les réseaux sociaux, tu ne fais que ça, Mourad.
Non, mais il manque du monde.
Alors, justement, moi, je suis très lucide. C'est un derby entre pays voisins et frères. Ce sont les sélections à prime.
Très beau match.
Avec deux sélectionneurs différents. Ce n'est pas Vahid Aïdouzi, ce n'est pas Jamel Madi, ce sont deux autres sélectionneurs. La Coupe arabe, c'est simplement un projet pilote. Un projet test pour tester la Coupe du Monde au Qatar en 2022.
En tout cas, c'est un sacré test et bien réussi.
C'est l'opportunité de découvrir des joueurs locaux et des joueurs qui évoluent au Moyen-Orient ou éventuellement dans les championnats du Maghreb.
Et pour les sélectionneurs, c'est bien de voir un peu leur réservoir.
Pour titiller entre nous, ici, parce que on aime bien se titiller.
Oui, moi il me semble que la Provence ne participe pas, donc je ne suis pas concerné.
Non, mais Marie, là, tu es autour du plateau de Bord FM, donc tu es intéressé.
La radio de la diversité, Bord FM.
C'est un match sympa, agréable à regarder, mais ça reste les sélections à prime. Voilà, tout simplement.
Donc c'est dur de faire un pronostic.
Il n'y a pas de Riyad Mahrez, il n'y a pas d'Achraf Hakimi, il n'y a pas d'Hakim Ziyech, il n'y a pas de Benacer.
Mais le match, tu le joueras. Et le match, tu le regarderas quand même.
Voilà, donc.
Oui, mais le match, tu le regarderas tout de même.
Je le regarderai avec attention
bien sûr.
Parce que j'admire les installations. Pas mal de personnes. Même si ce sont des stades qui sont construits sur des. Je ne vais pas le dire, mais sur des cimetières aussi.
Oui, selon toi.
Mais voilà, après, c'est pour le plaisir des yeux, tout simplement. Je ne pense pas qu'on va avoir un grand football. Mais il y aura beaucoup de duels.
On peut être agréablement surpris. Moi ces matchs, ouais, équipe à prime, qui n'ont pas trop d'enjeux, si les joueurs se lâchent, comme il y a quand même du potentiel technique dans ces deux équipes, tu peux voir un match sympa. Après, effectivement, tu n'auras pas l'engagement que tu auras dans un match de grande compétition.
Non, au contraire, je pense que tu auras beaucoup d'engagement, mais avec beaucoup de déchets techniques.
Ah, bah écoute.
j'ai regardé le match hier, hein, entre l'Algérie et l'Égypte.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Yasmine, c'est pas simplement, je pense, un test avant la Coupe du Monde au Qatar. Je me suis un peu penchée sur cette coupe parce que, honnêtement, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Mais c'est quand même une coupe qui existe depuis 53-58 ans. La première édition a été remportée par la Tunisie en 63. L'Irak a gagné 4 fois cette coupe-là. La dernière équipe à avoir gagné, c'est le Maroc en 2012.
Ouais.
Donc, mis à part que ça soit un test effectivement pour la Coupe du Monde,
les chiffres sont pas mal.
Il y a quand même aussi un aspect financier parce que
oui.
4,5 millions d'euros pour le vainqueur qui va être donné. Donc c'est énorme.
Oui, ben c'est justement pour qu'il y ait un minimum d'engagement de la part de ces sélections pour faire un test grandeur nature au Qatar.
Bah, il faut bien l'intéresser.
2022. Donc il faut un minimum. Pour qu'ils puissent la tester, voir comment seraient gérées, je sais pas moi, les installations, toute la partie hébergement, hôtellerie, organisation des matchs, la gestion des stades.
On est d'accord que c'est une répétition. C'est comme le tournoi de France en 97 pour ceux qui s'en souviennent. Non, c'était en 95 pour les qualifs. C'est pour les qualifs.
C'était
le tournoi de France qui avait été organisé autour du Stade de France.
Oui, c'est vrai.
Avec le Brésil et l'Angleterre.
Avec
le fameux coup franc de Roberto Carlos. Et finalement, un match amical pas très important nous a sorti des images qu'on regarde encore avec délice aujourd'hui. On en parlait la semaine dernière avec Yasmine.
Alors,
du plus beau coup franc de l'histoire, on le regarde encore aujourd'hui avec plaisir.
C'est là, c'est incroyable. Justement pour le match Maroc-Algérie.
Ah, je les ai pas sous les yeux. Je les ai pas. Non,
pour info, tous les matchs ont été joués dans les 7 nouveaux stades qui ont été construits à part un seul stade.
Bah, c'est l'objectif.
Aussi, Latifa.
Non, mais ces rencontres-là pour des pays qui suivent le foot et qui aiment le foot avec autant de ferveur, amoureux, c'est toujours agréable. On va faire abstraction des déchets techniques qu'on sait qu'il y aura certainement. Mais en tout cas, ça, un Maroc-Algérie ou pour même toutes les autres, ou hier Algérie-Égypte, etc. Ça fait toujours plaisir de s'engueuler un petit peu pour des choses futiles.
Négliger ça parce que l'Algérie, le Maroc et l'Arabie Saoudite n'ont pas aligné leur équipe type.
Mais même l'Égypte n'a pas aligné.
Mais quand même.
Voilà.
Mohamed Salah, plaisir, elle le dit bien.
Du monde actuellement, il est pas, il joue pas avec la sélection égyptienne. Il y a du Mohamed El Neni, il y a d'autres joueurs aussi. Donc après, il y a des sélections très fortes qui ont permis aussi d'être mises en lumière, comme la Syrie, aussi la Palestine.
Ce qui est intéressant, c'est de voir justement le réservoir de ces équipes, de l'Algérie, et ça peut être très intéressant pour des sélectionneurs en vue de la Coupe du Monde. Si on espère qu'ils se qualifient, des talents qui peuvent émerger, qui peuvent montrer que sous pression ils savent tenir, que dans la vie de groupe tu rencontres de nouveaux joueurs, peut-être que t'as pas l'occasion de voir parce qu'ils sont numéro 3 ou 4 à leur poste et que finalement tu vois qu'ils t'apportent quelque chose. Il y a toujours quelque chose à en tirer, je trouve, de n'importe quel match et de ce genre de compétition où tu vis ensemble pendant quelques semaines. Je pense que pour un sélectionneur, même si effectivement Jamel Belmadi pour l'Algérie n'est pas là, il y a quelque chose à en tirer.
Moi, je les connais déjà, de toute façon, que ce soit les talents locaux, les talents en championnat maghrébin ou des joueurs qui évoluent dans
le championnat
de la péninsule arabique.
Oui.
Moi, je les connais déjà. J'ai pas besoin de la coupe arabe pour les voir.
Non, mais attends, c'est une chose de les connaître, mais c'est autre chose de les voir dans le contexte international.
C'est vrai. Sur des beaux terrains, c'est vrai que c'est intéressant de les voir.
Non, mais c'est pas la même chose. Non, mais ils jouent sur des billards.
Le stade El Janoub, là, c'est incroyable.
Il y a des joueurs qui n'ont jamais été capables de mettre un pied devant l'autre dès qu'ils mettaient le maillot de l'équipe nationale. Et à l'inverse, des gens qui étaient moyens en club se sont révélés toujours excellent en équipe nationale. Porter le maillot de ton équipe nationale, c'est pas toujours automatique.
Ça existe depuis.
On est d'accord, donc ça peut être l'occasion d'en voir un ou deux. T'es pas à l'abri que 2-3 joueurs gagnent leur place pour la Coupe du Monde pendant cette compétition.
Ouais, aussi.
Oui, Marie, il aime bien enfoncer des portes ouvertes.
C'est plus facile à l'antenne. On se fait moins mal à l'épaule que ce que je te dis.
Ouais. Un grand merci à Louis-Marie, à Yasmine et aussi à Mourad de m'avoir accompagné, sans oublier notre invité, Latifa Louis-Queer. Justement, qui est directrice de la rédaction chez nos confrères du Bondi Blog, qu'on peut retrouver, bondiblog.fr, c'est bien ça?
C'est ça.
Ouais, vraiment très intéressant, et merci pour toutes ces lumières.
Moi, j'ai une question.
Et ce magnifique reportage.
Oui,
alors, pour Latifa, allez, avant de terminer.
Dans le cadre de ces enquêtes, justement, c'est quoi?
Alors
C'est ça, de voir les préconisations de l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux sur les paris sportifs, et de voir ce qu'on peut faire d'ici à ce que le mondial. Arrive pour que les choses bougent un peu avant cette échéance-là. Je pense que les opérateurs commencent déjà à la préparer. Ça serait bien que nous aussi, sur un autre aspect.
Ah ouais.
Okay. C'est bien dit. Merci Latifa en tout cas d'être venu sur ce magnifique plateau qui est Beurre FM. On se retrouve dès demain à partir de 20h. La suite des programmes avec à 22h Vanessa et vous retrouverez à la réalisation Giovanni. Et nous on vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre.